Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
Bienvenue à cette édition du 24 septembre 2020 des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre émission d'actualité d'ici et d'ailleurs. C'était une feinte, mesdames et messieurs. On voulait vous faire on voulait vous faire croire qu'on était encore pré-enregistrement.
Bonne blague, Marie-Ève.
N'est-ce pas?
Donc, je vais commencer officiellement. Bienvenue aux Apatrides des Anonymes en direct des studios de choc.ca. Nous sommes le 8 octobre et non pas le 24 septembre.
Et voilà.
Et voilà. Donc, Mathieu au micro en compagnie de Marie-Ève et Simon. Donc, ben voilà, on est un peu surpris. D'ailleurs, je voulais vous dire en introduction que, vu que c'est notre grand retour depuis le 12 mars dernier, ça se peut qu'il y ait des petits pépins techniques, là, soyez indulgents et indulgentes, parce qu'on est un peu rouillés, autant à l'animation qu'aux échanges et qu'à la technique.
On est rouillés de partout.
On est rouillés de partout. En plus, il fait froid, c'est le mois d'octobre. Donc, les Apatrides Anonymes, émission bimensuelle, qui traite des enjeux de racisme, de frontières, d'immigration, de sécurité nationale, au niveau local, national et international. Nous sommes le trio, donc depuis un an et demi qu'on est à choc.ca aux deux semaines, les jeudis à 18h30. Donc, on est bien content quand même de revenir en studio, parce que, ben, c'est ça, c'est les joies du live.
Hein? Oui, Mathieu, il était fou comme un balai de revenir à l'animation. Ça fait quand même, effectivement, depuis le 12 mars que t'as pas animé, Mathieu.
Ben non.
Simon et moi, nous relayons avec un « i » depuis tout ce temps, donc...
Parce que vous faisiez le montage et tout de l'émission après enregistrement.
Ben oui, on faisait tout, finalement. On t'entend pas bien, Simon.
Donc, Simon nous reviendra dans quelques secondes. Au menu de l'émission aujourd'hui, on va parler, entre autres, de... Ben, il va y avoir un agenda annonce antiraciste comme à chaque deux semaines.
Allô?
Oui, ah oui, bravo. Enfin!
Il fallait ouvrir le micro.
Ah là 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 là. Simon, justement, va nous parler, va faire son retour de la citation raciste en lien avec la commission Vient.
S'il est capable.
S'il est capable d'ouvrir son micro. Maria va nous parler de pays européens dont on parle moins souvent, entre autres la Slovénie et la Bosnie. Simon va nous parler aussi des travailleurs racisés en lien avec l'accès aux services, les enjeux en CHSLD. Et on va aussi parler, Maria, encore une fois, va nous parler de ce qui se passe en Europe au niveau du nouveau pacte migratoire européen et d'un référendum en Suisse qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Avant tout, par exemple, on voulait se faire un petit micro d'intro à trois, là, les trois ensemble, pour revenir un peu sur l'été, début d'automne mouvementé qu'il y a eu dans l'actualité. Et là, je ne vous parle pas de la pandémie directement et des mesures sanitaires, mais plus des enjeux sociaux, politiques, économiques qui nous intéressent à l'émission. Donc, on voulait vous faire un petit bilan des enjeux, des mobilisations qu'il y a eu au cours de... on vous en a parlé dans nos dernières émissions, tout au courant des derniers mois. Et heureusement, ces enjeux-là ont réussi à prendre une place quand même enviable dans l'actualité, malgré la pandémie. Mais on voulait quand même vous faire chacun un petit retour sur nos enjeux qui nous ont le plus parlé ou frappé. Je vais commencer avec Simon, qui voulait nous parler de certains groupes de la société qui en ont pas mal plus arraché que d'autres pendant la pandémie.
Ben moi, ce qui m'a marqué dans les mois précédents, on regarde les quartiers qui ont été les plus touchés à Montréal au sommet des vagues de contamination. Donc, c'était Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, des quartiers au profil socio-économique semblable, très multiculturel, plutôt défavorisé. Beaucoup de ce qu'on a appelé les anges gardiens, je ne prendrai pas l'accent de mon oncle Legault, là. Nos anges gardiens.
Mon oncle François.
Ou personnel essentiel, mon oncle François, c'est ça, préposé en CHSLD, résidence, habitait dans ces quartiers-là où les conditions de logement sont souvent pas du tout idéales. Des grandes familles dans des petits appartements, donc impossible de s'isoler ou de respecter les normes sanitaires. On contamine toute la famille assez rapidement. Beaucoup d'immigrants, d'immigrantes, travailleurs dits essentiels sont donc dans le bas de l'échelle salariale, se ramassent avec les tâches les plus à risque. Et s'ils se retrouvent dans ces emplois-là, ça peut, par exemple, être à cause de diplômes non reconnus, ça a été démontré, et à cause de plusieurs autres facteurs intersectionnels et systémiques. Ironiquement, c'est aussi dans ces quartiers-là que la police a distribué le plus de constats d'infraction pour la soi-disant non-respect des consignes sanitaires, comme si c'était de ça dont on avait le plus besoin à Saint-Michel ou à Montréal-Nord. J'en profite pour saluer le travail de Hotstock, beaucoup sur le terrain, au point que la santé publique semblait parfois à la remorque de Hotstock dans ces quartiers-là. Rapidement, deux autres éléments marquants. Je dirais on en apprenait plus sur le mode d'opération des agences de placement en CHSLD. méthode de recrutement agressive. On parlait de personnes non documentées comme d'une manne pour ces agences-là. On parlait même d'une filière Roxham, carrément. Et dernièrement, dernier élément qui m'a marqué, c'est quand on s'est mis à avoir des témoignages de travailleurs saisonniers dans les fermes. Donc, beaucoup des hommes mexicains ou d'Amérique centrale, on les déplaçait d'une ferme à l'autre, tout collé dans des minivans, couchés dans des grands dortoirs, tout le monde tassé, pas de mesure de protection spéciale, pas assez de douche, pas assez de toilettes. Bref, je pourrais continuer longtemps sur les conditions. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les exploitations agricoles sont devenues rapidement des gros foyers d'éclosion au point de créer un incident diplomatique entre le Canada et le Mexique.
Oui, d'ailleurs, en Ontario particulièrement, il y a eu des centaines de travailleurs migrants contaminés.
Oui, en Ontario, ça avait commencé là, puis le Québec avait suivi pas longtemps après.
Il n'y en a pas trop parlé quand même, hein? Ça dit que...
Une petite brève comme ça, cachée en page 8.
Business as usual,
oui,
tout à fait. Merci, Simon. Merci. Marie-Ève, toi, tu vas nous parler aussi de d'autres enjeux un peu semblables, mais...
Ben oui, mais c'est ça, en fait, je vais, comme on dit, surfer sur ce qu'un peu a dit Simon. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est que, bon, même si on s'y attendait, c'est que je trouve que la pandémie a agi un peu comme une radiographie des différentes fractures dans nos sociétés, qu'elles soient sociales, économiques ou raciales. Puis, comme Simon le disait, ben encore une fois, c'est les laissés pour compte, les exclus habituels, qui sont ceux et celles qui en font le plus les frais ou qui sont oubliés des politiques sanitaires ou de relance. Simon en a parlé ici, ça a été beaucoup les quartiers populaires et racisés comme Montréal-Nord, Saint-Michel, tout ça, mais en Europe, ça a été, à Paris, par exemple, ça a été la même chose, où les quartiers populaires et racisés ont eux aussi fait les frais des interventions policières, ont aussi fait les frais, ont été beaucoup les plus contaminés aussi parce que à cause de logements exigus également, comme Simon en a parlé, mais aussi parce que même au niveau du quand la ville de Paris a décidé de mettre le port obligatoire du masque dans certaines rues, les quartiers qui étaient visés étaient à forte proportion, c'était les arrondissements racisés ou
plus pauvres, ouais.
Plus pauvres, tu sais.
Comme le 16e.
Voilà, oui, c'est ça. Plus le 18. Bref, mais puis les personnes migrantes en Europe se retrouvent aussi dans les centres de détention surpeuplés, sans accès à des soins de santé, puis où les foyers d'éclosion n'ont pas cessé de se multiplier. Puis, comme on l'a vu d'ailleurs à Lesbos, je vous en avais parlé, à Lesbos en Grèce, où, en plus, c'est qu'un des effets, ça a été d'exacerber des tensions déjà grandes, déjà présentes avec les populations locales, qui voient maintenant, si c'était pas déjà assez, voient maintenant les demandeuses d'asile comme une menace pour leur santé, tu sais. Aussi, ben, on peut penser aux personnes, aux demandeurs d'asile dans les camps de fortune ou qui sont situés dans les villes ou à leur périphérie, toujours en Europe, puis qui se trouvent aussi sans accès aux soins de santé, puis dans une situation d'extrême précarité. Je vous parlais il y a deux semaines de Calais, où les associations se sont vues interdites de distribuer des biens de première nécessité là, mm-hmm. par les autorités, sous prétexte, encore une fois, de danger sanitaire. Fait que ça peut aussi nous faire penser aux personnes en situation d'itinérance ici qui ont vu les centres d'hébergement d'urgence fermés puis qui ont fini par installer un campement là aux abords de la rue Notre-Dame à Montréal, que là, la ville menace toujours de fermer, mais où aussi se sont retrouvées des personnes qui ont été investies de leur logement suite à la perte d'un emploi due à la COVID, tu sais. Puis ça, bon, c'est sans parler des communautés autochtones un peu laissées à elles-mêmes, comme ça l'est. Bref, on voit que ça exacerbe les fractures qui existaient déjà.
Et les inégalités, évidemment, dont
voilà.
On a beaucoup parlé.
Ouais.
Ben, merci, Maria. Moi, je vais terminer ce tour de table avec les manifestations qu'il y a eu ici au Canada et aux États-Unis dans les derniers mois. Malgré la peur et la morosité, malgré les mesures de contrôle de l'espace public, malgré la crise économique qui frappe beaucoup de gens, Il y a eu beaucoup de mobilisation dans les derniers mois. Évidemment, ben, Black Lives Matter, on ne peut pas passer à côté. Depuis le mois de mai, plusieurs manifs contre le racisme et la brutalité policière. À Montréal, la fameuse manif du 31 mai, où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup de manifs aussi pour les sans-statut, les sans-gardiens, entre guillemets, les travailleurs essentiels, entre guillemets, aussi, comme Simon parlait. Plusieurs journées pan-canadiennes pour demander un statut pour tous et toutes. Des actions pour vider les centres de détention réguliers et ceux pour migrants au printemps aussi, à cause de la COVID, entre autres. Des manifs contre Dollarama, contre le programme de l'expérience québécoise, le PEC, pour le définancement de la police, le fameux 29 août, il y a eu une certaine statue qui s'est faite sortir de l'espace public.
C'était Ronald McDonald. Hein,
oui, c'est ça, c'était le, oui, c'est ça, le, pas le clown, le fondateur. Là. Et aussi, ben, récemment, tout récemment, le 26 septembre, une assez grande manif contre les oppressions en général et pour relancer la lutte contre les changements climatiques. Donc, un été, début d'automne, très actif. Là, c'est un peu plus tranquille dans les prochaines semaines. Je vais vous en parler à l'agenda tantôt. Mais on a quand même eu au moins l'occasion de s'exprimer, de sortir, de dénoncer des choses malgré l'amorosité ambiante et l'espèce de chape de plomb qu'on avait dans les derniers mois avec la pandémie et ses mesures. Donc, voilà.
C'est sans compter la deuxième vague de dénonciation, la deuxième vague MeToo et les manifs qui ont eu lieu également.
Tu as bien souligné, je ne l'avais pas mis dans mon énumération. Désolé.
Les femmes, les éternelles oubliées. Ah.
Mais occupe pas. Donc, on va attendre quelques notes de musique et Marie-Ève nous revient avec son dada, l'Europe.
Effectivement, mon dada, ça fait plusieurs émissions que je vous parle de la situation difficile dans laquelle se retrouvent les personnes migrantes dans plusieurs pays d'Europe. Et avec la nouvelle politique migratoire de l'Union européenne, ben c'est pas prêt de s'améliorer, puisque l'Union européenne, en fait, semble avoir opté pour un alignement assez clair sur les pays les plus hostiles à l'immigration. On pourrait donc résumer le nouveau pacte sur la migration et l'asile, c'est son nom officiel, annoncé par la Commission européenne à la fin du mois de septembre, en trois points. Durcissement sur les renvois des migrants irréguliers, contrôle accru aux frontières extérieures et accélération des procédures.
Beau programme.
Très beau programme. C'était un pacte qui était assez... Cette réforme-là du programme était assez... du pacte était assez attendu. Bon, pour l'instant, c'est au stade de plan. Là, c'est une proposition qui a été faite. Donc, ça reste dans l'attente de validation des 27 pays de l'Union européenne. Pour vous expliquer un peu le changement, le plus important, en fait, signe le... un peu la fin du fameux règlement Dublin, là, l'équivalent européen de l'entente des tiers pays sûrs. Pour rappel, une personne migrante qui entrait dans le territoire européen devait jusqu'à aujourd'hui présenter sa demande d'asile dans le premier pays d'entrée. Mais là, la proposition de la Commission européenne représente une faible lueur d'espoir pour les demandeurs d'asile, puisque maintenant, le pays, ben, si ça passe évidemment, là, le pays responsable de la demande pourra être celui dans lequel une personne migrante a de la famille ou dans lequel il a travaillé ou fait ses études. Ce sera aussi le pays qui a délivré un visa qui devra se charger de la demande d'asile. Sinon, pour le reste, ben, les pays de première à y arriver là, resteront chargés de la demande si le cas tombe pas dans une de ces deux situations-là. Il est également prévu un processus accéléré pour écarter plus rapidement les personnes migrantes qui ont peu de chances d'obtenir une protection internationale. Selon la Commission, il s'agit des personnes qui viennent des pays ayant un taux de réponse positive aux demandes d'asile inférieur à 20 %, c'est-à-dire la Tunisie ou le Maroc.
Et donc?
Oui, et donc pour ceux-là, le traitement de la demande d'asile se fait à la frontière dans un délai maximum de 12 semaines. Si un pays est soumis, entre guillemets, à une pression migratoire et estime qu'il ne pourra pas assumer là, la prise en charge des personnes migrantes, il peut demander l'activation de ce qui est nommé un mécanisme de solidarité obligatoire qui doit être décidé par la Commission, qui, elle, va évaluer le nombre de personnes migrantes à prendre en charge par le pays en question. Tous les États vont être mis à contribution en fonction de leur poids économique et de leur population, mais parce qu'il y a un mais, évidemment, ils ont quand même le choix entre accueillir les demandeurs d'asile, parrainer leur renvoi dans leur pays.
Oui, c'est bon ça.
S'ils n'ont pas le droit de rester dans l'Union européenne, ou aider à la construction de centres d'accueil, notamment c'est...
De centres de rétention, là. Ouais, ouais.
C'est ça. Mais ouais. Si un pays de l'Union européenne échoue à renvoyer des personnes migrantes dans leur pays d'origine, ben là, ils ont 8 mois pour les accueillir. Là, ce que je viens de vous mentionner, en fait, on voit bien que c'est une façon de contourner le refus persistant de plusieurs pays, notamment du groupe dit de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Donc, le refus d'accueillir des migrants et de tirer des leçons de l'échec des quotas, des fameux quotas là, de relocalisation qui avaient été décidés en 2015.
C'est plutôt un compromis administratif, hein? C'est bureaucratique comme pacte. Hein?
Ah, ça va plus loin que ça. J'ai pas fini, vous allez voir, mais plusieurs ONG sont unanimes pour qualifier ce nouveau pacte-là de compromis entre lâcheté et xénophobie, en fait.
Bon, ça c'est clair.
C'est assez clair. Le seul changement positif, ben positif, réellement positif, là, si on veut, au pacte migratoire de l'Union européenne, c'est un mécanisme de solidarité là concernant les sauvetages en mer qui vise principalement à mettre à l'abri des poursuites judiciaires, les ONG qui effectuent des sauvetages. C'est pas
un
mal.
Petit
bonbon. C'est
ouais.
ça. Bon, on parle de compromis entre lâcheté et xénophobie. On peut aussi souligner l'hypocrisie de l'Union européenne parce que, bon, d'un côté, elle pousse pour un resserrement de ses frontières, mais de l'autre, elle s'en va saluer le rejet par les Suisses lors d'un référendum d'une limitation de l'immigration des ressortissants de l'Union européenne. Il y a eu donc un référendum à la fin. En fait, c'était seulement quelques semaines. Là, après que l'UE ait annoncé le pacte. Il y a 1,4 million de ressortissants de l'Union européenne qui vivent en Suisse et 450 000 Suisses qui vivent dans l'Union européenne. Ça représente 320 000 citoyens de l'Union européenne qui franchissent la frontière chaque jour pour aller en Suisse. Je vais terminer sur une petite citation de la Commission européenne de la présidente Ursula von der Leyen qui illustre l'hypocrisie, qui a déclaré dans un message vidéo publié sur Twitter en anglais, en français et en allemand, je cite « Leur vote, en parlant des Suisses, valide des piliers centraux de notre relation, la liberté mutuelle de bouger, de vivre et de travailler en Suisse dans l'Union européenne. » Bref, un bel exemple de deux poids, deux mesures.
On est bien entre Européens.
Ah, on est-tu assez
bien? Tant qu'il n'y a pas les autres autour qui voilà. viennent. On va passer en musique. Merci, Marie-Ève.
Ben, ça me fait plaisir.
On va passer en musique avec Janelle Monae, la pièce Turntables de l'album du même nom. C'est tiré de la bande sonore du documentaire All In, The Fight for Democracy, qui traite de la suppression du vote, les limitations pour le droit de vote des minorités aux États-Unis. Et peut-être vous dire que Janelle Monae est une jeune auteure, compositrice, interprète de Kansas City, au Missouri et non pas au Kansas. The table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline. Trying to get my mind right. My city cried out. I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco. Look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Then you should do the dishes. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different vision with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America.
America. You's a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. We gon' watch the table. Now we gon' watch the table.
Janelle Monae avec la pièce Turntable du même album sorti en 2020 et ça a été, c'est dans la filière choc.ca côté musical. Ben, je vais vous parler d'un petit, ben, d'un sujet, pas d'un petit sujet, mais de façon un peu courte, mais d'un sujet qui a attiré beaucoup l'attention depuis quelques semaines, la situation de Mamadou Konaté, qui est devenu un peu le symbole de l'ange gardien ou du travailleur essentiel oublié, victime de la fermeture des gouvernements à régulariser les demandeurs de statut, particulièrement le gouvernement Legault, qui est très fermé là-dessus, malgré l'entente qu'il y a eu avec le fédéral. On en a parlé, Simon en a parlé tantôt aussi. Peut-être vous rappeler un petit peu, pour ceux et celles qui ont moins suivi, M. Konaté, 39 ans, est au Canada depuis 2016, s'est fait refuser sa demande d'asile, et maintenant sa demande humanitaire a été rejetée cette année. On dit que sa demande humanitaire n'était pas assez complète, pourtant elle était très béton, selon lui et son avocat et les groupes qui l'appuient. Et pour lui, un retour vers la Côte d'Ivoire est dangereux parce que, bon, vous avez sans doute vu ça, il y a eu plusieurs articles, il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire, entre autres, qui a été mêlée là-dedans. Et il a travaillé, donc, dans plein de boulots, dont en CHSLD, et il a attrapé la COVID aussi, pour cette raison, en CHSLD. Il était en entretien. Il fait face à une déportation imminente. Il s'est rendu avec son avocat aux autorités parce qu'il y avait un mandat de déportation au début du mois de septembre. Il a été emprisonné à Laval. Il est toujours emprisonné à Laval, à la prison pour immigrants, de l'immigration. Sa demande de libération a été rejetée le 24 septembre. Et vraiment, c'est lui qui représente actuellement un peu les gens qui sont pas dans la bonne case pour fitter dans la bonne section des anges gardiens pour être reconnus, pour avoir un statut. Et d'ailleurs, à son audience de sous libération conditionnelle qu'il n'y a pas eu, du 24 septembre, on a appris, entre autres, par un représentant de l'Agence des services frontaliers du Canada, que les déportations avaient repris dans les dernières semaines, supposément seulement pour les cas de criminels endurcis, mais ça a l'air que c'est plus large que ça, et malgré un moratoire plus ou moins officiel qu'il y avait depuis le début de la pandémie. Donc, on va fouiller ça, on vous en parlera peut-être à une prochaine émission. Peut-être finir là-dessus en disant qu'il y a eu plusieurs manifs pour Mamadou, il y a une pétition qui a recueilli 38 000 signatures actuellement, la levée de fonds a récolté 12 000 $ il y a une page Facebook dédiée, Solidarité pour Mamadou, si ça vous intéresse. Il y a eu un bon article dans le Huffington Post le 25 septembre, et aujourd'hui même, 8 octobre, la chronique de Émilie Nicolas dans Le Devoir était là-dessus, c'est un bon article sur sa situation et... comme je vous dis, il représente beaucoup d'autres personnes. Donc voilà pour... je vais vous mettre un petit peu à jour là-dessus. Je vais passer la parole à Simon.
Et oui.
Qui va nous parler des travailleurs racisés en lien avec différents enjeux.
Bien, c'est un peu en lien avec ce dont tu viens de parler, comme Mamadou qui ne fitait pas dans les cases très, très précises que Legault... je pense que c'est le personnel dit hospitalier seulement, c'est-à-dire qu'il donne des soins directs
exactement.
Aux patients ou aux aînés, et non au personnel d'entretien, même s'ils travaillent dans la même chambre, ce qui est vraiment limitatif. Donc je fais un petit bloc sur deux thèmes, l'accès aux services et le merveilleux monde du travail en général pour les personnes racisées ou les personnes en attente de statut. On va commencer avec l'accès aux services. Il y a un sondage qui a été mené par la table de concertation des organismes au service des réfugiés et des immigrants. Ouf! Le TCRI. qui a révélé qu'il y a une grande majorité des personnes qui doivent être bientôt régularisées par le fédéral parce qu'elles ont occupé des emplois essentiels au plus fort de la COVID. Ben, pratiquement toutes ces personnes-là ont éprouvé des difficultés importantes à obtenir des services publics auxquels elles ont droit. Des difficultés parfois impossibles d'obtenir un service. Donc, des exemples, 64% des répondants ont déclaré avoir eu de la difficulté à avoir accès à des soins de santé. 44% des personnes ayant eu des symptômes n'ont pu être dépistées.
Même s'ils travaillaient souvent dans le réseau de la santé, en plus, ces gens-là.
Et même si il y avait des discours qui déclaraient il faut se faire dépister, en tout cas. Bref, c'est le paradoxe habituel. Beaucoup ont été refusés parce qu'elles n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ce qui est complètement inacceptable. La santé publique provinciale avait décrété que les dépistages et les soins liés à la COVID devaient être gratuits pour tout le monde, peu importe le statut. Oui. Donc, on en avait déjà parlé. Des fois, pour les soins, c'était plus compliqué parce qu'il fallait démontrer que c'était pour la COVID. Sinon, c'était pas gratuit puis ça coûte des milliers de dollars.
C'était dès avril, c'était comme ça, là, ouais.
Ouais, je crois pas que ça a évolué beaucoup, même durant le courant de l'été. Autre statistique assez importante. 93% des parents qui ont voulu inscrire leurs enfants au service des gardes d'urgence se sont vus refuser le service, alors qu'il était prévu qu'ils y avaient droit durant le confinement du printemps. Donc, on voit que l'accès au service, c'est problématique pour les demandeurs d'asile.
Pour quelles raisons, Simon, qui se sont fait refuser?
J'ai pas la raison. Ça doit être des raisons, encore une fois, que... C'est ça, il y a des directives, tu sais, il y a un discours politique. Ensuite, les directives doivent se rendre d'un palier à l'autre jusqu'au comptoir d'accueil où on fait l'inscription. Et il y a probablement des contradictions, les consignes sont pas claires. Je sais pas, honnêtement, c'était pas expliqué.
C'est déjà le bordel en temps normal, imagine en temps de pandémie et de mesures d'urgence. Ça fait que dans les systèmes, dans les réseaux.
Tu sais, il y en a qui sont un peu cyniques, peut-être qu'ils disent que c'est juste un show de boucan politique. Et que dans la réalité, ça marche pas. D'ailleurs, Louise Arbeau, qui a tout récemment refait un appel à la régularisation de toutes les personnes sans statut, justement pour éviter ce genre de situation discriminatoire assez grave pour l'accès aux services essentiels. On va arriver au milieu du travail parce que dans le même sondage, on apprenait que 96% des personnes sondées ont dit avoir vécu du stress important lié à leur emploi. Que ce soit des questions de permis de travail, de transport pour aller travailler, de conditions de travail, pas juste sanitaires, mais de conditions de travail en général. Donc voilà pour le sondage mené par le TCRI. On apprenait récemment qu'il y a une enquête ouverte actuellement sur le travail au noir dans les CHSLD. Des demandeurs, des demandeuses d'asile employés en dessous de la table dans plusieurs CHSLD et payés cash, évidemment bien en deçà du salaire minimum. Non pas du salaire de base pour un préposé en CHSLD, mais du salaire minimum pour lui. C'est une instance que je connaissais pas qui mène l'enquête. C'est le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics. Donc, le nom est pas très, très explicite, mais en tout cas, c'est l'organisme qui est mandaté par Québec pour voir aux conditions de travail décentes dans le secteur. L'enquête semble viser davantage des sous-traitants des CHSLD plutôt que les CHSLD eux-mêmes. Qui, par contre, les CHSLD pourraient peut-être mieux être équipés pour faire les vérifications nécessaires auprès de leurs fournisseurs. Je ne sais pas s'ils ont leurs outils, en fait, ou si c'est parce qu'ils ne le font pas. Mais quand c'est le temps d'octroyer des contrats de sous-traitance, il faudrait peut-être serrer un peu la vis là-dessus.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne devraient même pas avoir de sous-traitance. Tout le monde devrait être engagé comme employé avec des bonnes conditions. C'est ça aussi l'enjeu de base.
Oui, ben on verra. Il y a centralisation, décentralisation. C'est tellement le bordel dans le milieu que...
À cause de ça, entre autres.
À cause de ça et entre autres raisons. Donc, il y a deux entreprises qui sont visées. Il y a l'entreprise Promax, dont j'aime beaucoup le nom, qui est elle-même sous-traitante de GDI Service, qui, lui, est le sous-traitant officiel du gouvernement. Donc, voilà pour les joueurs impliqués. Les deux entreprises se renvoient plus ou moins la balle. Donc, elles fournissent des employés d'entretien à plusieurs centres d'hébergement, la plupart qui relèvent du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est non seulement une fraude fiscale que de payer des employés au noir, mais surtout, ça permet toutes sortes d'abus, encore plus quand ça se passe avec des personnes au statut précaire. Il y a un demandeur d'asile mexicain qui faisait le ménage d'un CHSLD du réseau public. Il s'est confié de façon anonyme à un média. Il mentionnait qu'il travaillait 7 jours sur 7, jusqu'à 12 heures par jour à 13 $ de l'heure, plutôt que les 19 $ de l'heure qui est le salaire habituel pour ce genre de travail quand tu es un employé irrégulier. Et bien, il était payé cash, évidemment. En plus de ça, son embauche au noir faisait en sorte qu'il avait droit à aucun avantage, aucune sécurité. Il avait droit à rien, finalement. Puis en cas d'accident de travail, ça aurait été la catastrophe, la ruine pour lui et pour tous les autres employés qui sont dans la même situation. Le CIUS de l'ouest de l'île dit songer à n'avoir que ses propres employés d'entretien à moyen long terme, plutôt que de faire affaire à ce genre d'agence qui profite de la misère humaine dans des situations de crise, bien, et en temps normal aussi. Le milieu de l'entretien ménager, globalement, ce serait un milieu carrément gangrené par ce genre d'exploitation de personnes migrantes partout, dans les hôtels, les bureaux, les restos. Certaines agences de placement seraient carrément rendues expertes en repérage de personnes dont les visas sont expirés ou qui viennent d'entrer sur le territoire de manière irrégulière ou dont la demande de statut a été refusée. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à tracer ces personnes-là. Question de réseau, c'est, en tout cas, c'est un peu comme des charognards, désolé de la comparaison. L'enquête actuelle ne cherche pas à savoir comment ces entreprises-là arrivent à traquer, à repérer les personnes migrantes faciles à exploiter. Donc, je ne sais pas si peut-être qu'elles ont un accès privilégié à des bases de données sensibles. En tout cas, une enquête qui porterait sur cet aspect particulier, je pense que ça pourrait être très intéressant. Peut-être qu'elles ont des contacts avec des conseillers en immigration un peu véreux ou elles vont aux bons endroits pour faire miroiter des bons jobs. Je sais pas. Je finis très, très rapidement en vous parlant d'un super beau petit vidéo facile à trouver. Ça s'appelle « Femmes racisées dans les organisations communautaires ». C'est une courte animation de 6 minutes produite par le COCO, Centre des organismes communautaires. C'est construit à partir de centaines de témoignages de travailleuses issues de la diversité. Ça parle de micro-agressions, de petits racismes ordinaires ou plus systémiques qui est vécu en milieu de travail, dans le milieu communautaire dans ce cas-ci. Je rappelle le nom du vidéo, c'est « Femmes racisées dans les organisations communautaires » et on l'a mis dans notre page Facebook des Apatrides.
Pas le merveilleux monde communautaire qui est parfait.
Presque parfait.
Presque parfait. Donc, merci Simon pour cette mise à jour sur différents enjeux qu'on suit, mais que là, tu es allé avec plus de détails et plus de cas précis. Merci beaucoup. Mm-hmm. On va aller avec quelques notes de musique et on revient dans pas très longtemps avec moi-même, Mathieu et Marie-Ève aussi, qui parlent d'Europe.
Marie la française.
Toujours à l'émission des Apatrides Anonymes, ça court avec masque dans le studio. Non, c'est une farce. Je vais vous parler d'une autre situation, un autre événement qui a lieu en Europe. Justement, ça va introduire Marie-Ève. Il y a 2 semaines, Marie-Ève nous parlait du livre d'un infiltré dans la police de Paris qui a constaté un racisme endémique dans plusieurs postes de police. En juin, on vous parlait aussi des conversations racistes sur WhatsApp de policiers de Rouen qui riaient de leurs collègues et qui étaient même très durs et très méprisant avec leurs collègues de d'autres origines. La semaine passée, on a su qu'un policier de Strasbourg qui va porter plainte pour racisme contre la police nationale. Il s'appelle Ekal Rizgi Rawaji, 37 ans. Il va porter plainte pour racisme, discrimination et harcèlement moral. Il accuse les membres de sa brigade de lui avoir fait subir insultes et réflexions racistes depuis son arrivée à Strasbourg il y a 2 ans. En plus, il a 16 ans de carrière, il a été décoré pour avoir sauvé 2 enfants d'un incendie, vous voyez le genre de policier. Originaire de Toulouse, il a travaillé un peu partout en France avant de se retrouver, donc muté à Strasbourg en 2018. Dès qu'il est arrivé, c'est lui qui nous raconte ça dans l'article. Il s'est fait dire « Oh, c'était un nom bien français de chez nous. » Les autres policiers parlaient en alsacien pour rire de lui parce qu'ils comprenaient pas l'alsacien, ce genre de choses-là. Donc, finalement, dépression, arrêt de travail. Finalement, il a fait un rapport à la direction départementale et après ça, l'inspection générale de la police nationale s'est saisie de l'affaire, mais elle a été classée sans suite. Les syndicats lui confient que s'il veut être muté à Toulouse, sa ville d'origine, il ne doit pas évoquer le racisme comme motif, mais une mauvaise intégration, parce que sinon, ça ne passera pas. Donc, c'est assez spécial. D'ailleurs, il a enregistré une conversation avec son délégué syndical de Alliance Police, et qui lui disait que lui aussi, il était sûr que ça avait été étouffé comme affaire, et qui lui précisait aussi, je vais te dire, si tous les collègues devaient être sanctionnés par rapport à des propos tenus et autres, c'est sûr qu'on ferait un grand ménage chez nous. Hein, c'est clair. Ça, c'est le délégué syndical policier. Son avocate, qui s'appelle Kautare Choukour, je la cite, « On s'attaque à l'institution policière, ça arrive très rarement. Moi, je le ressens déjà, la manière dont je suis accueilli au commissariat, elle est désagréable. » Parce que c'est une des premières plaintes officielles d'un policier contre la police pour racisme. Et elle nous confie que depuis son témoignage, le témoignage de son client, l'avocate a reçu pas mal d'appels de d'autres policiers qui confirment un peu la même chose. Donc, à suivre pour ce qui est du racisme et la police en France. On en a souvent parlé et ça risque d'alimenter pas mal la manchette dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, Marie-Ève?
Ben oui.
Europe part 2? Part 2? Part 2?
En fait, oui, pour mon deuxième bloc d'actualité européenne, là, on va se tourner, par exemple, vers un coin dont on parle pas souvent, dont je ne vous ai pas souvent parlé, ni moi, ni mes collègues d'ailleurs. Donc vers l'Est, en fait, plus précisément vers la Bosnie et la Slovénie, où le sort des personnes migrantes est tout aussi précaire qu'ailleurs, là, on peut s'en douter. D'abord, fin septembre, l'ONU s'inquiétait des milliers de migrants sans-abri dans le nord de la Bosnie, alors que l'hiver approche à grands pas et que les températures chutent lentement mais sûrement. C'est que les autorités locales, régionales et nationales de Bosnie parviennent pas à s'entendre là, sur la gestion des migrants dans le pays. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, environ 8500 personnes migrantes sont actuellement bloquées en Bosnie, ce qui est quand même beaucoup pour un si petit pays.
C'est peut-être les suites de la fameuse route migratoire de 2016. Oui,
exactement. Ouais, vous allez voir, c'est ça. C'est principalement, en fait, dans le nord, là, dans la région de Krajina. Évidemment, c'est une route, justement, qui les personnes migrantes passent par la Croatie pour qui partage là quelques mille kilomètres de frontière avec la Bosnie, donc c'est pour se rendre en Europe. Parmi elles, parmi ces personnes-là, 2500 sont sans abri et se retrouvent à dormir un peu partout là, soit dans des squats, dans la forêt, dans les rues ou encore dans des bâtiments abandonnés. Selon l'OIM, la situation pourrait être évitée, comme on peut s'en donner une sans douter aussi. Mais comme je disais, les autorités n'arrivent pas à s'entendre là, sur la gestion des migrants. Par exemple, l'OIM possède un centre à Krajina qui est conçu pour 1500 personnes, sauf que les autorités locales ont décidé de permettre d'en accueillir seulement 500. Et ça, quand je dis 1500 personnes, c'est dans des conditions comme correctes, là, tu sais, pas trop de promiscuité et tout, là. On est en période COVID, on le sait. Faut dire qu'on commence à le savoir. Faut dire, ben, c'est ça. Comme tu disais, Mathieu, depuis 2017, là, la Bosnie est devenue vraiment un espèce de goulot d'étranglement là, pour les milliers de migrants qui viennent du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Afrique du Nord, qui veulent joindre l'Europe alors que les autres pays de la route des Balkans ont fermé leurs frontières. Donc là, dans ce contexte-là, l'ONU a fourni jusqu'à présent 60 millions d'euros quand même d'aide d'urgence destinée principalement à 7 centres d'hébergement pour migrants, dont 6 à Krajina, vraiment dans la région dont je vous parle, et qui peuvent accueillir jusqu'à 7000 personnes. Mais même si le gouvernement bosnien a assuré qu'il cherchait des locaux publics là, pour héberger temporairement les migrants, il n'y a rien de concret qui a été fait. Non, il n'y a rien de concret qui a été fait, absolument niet nada. Pire encore, les autorités locales de Krajina ont récemment commencé à vider certains des centres d'accueil existants, ce qui a poussé les exilés là à quitter les zones urbaines. Certains racontent même avoir été abandonnés littéralement dans les forêts. Puis les forces de police des régions adjacentes ont commencé à empêcher les migrants aussi, qui sont livrés à eux-mêmes, d'entrer sur leur territoire. Si ça s'était passé, ben là, en parallèle, on peut s'imaginer ce que ça peut créer. Je vous parlais plus tôt, tu sais, en intro, des tensions que ça peut créer avec les populations locales. Ben là, c'est évidemment, tu sais, l'image de milliers de sans-abri, sans accès à des soins médicaux, à de la nourriture, augmente le sentiment d'insécurité chez la population locale. Et ce qui, évidemment, dans ce cas-là, a pour effet d'entraîner la prolifération de milices dites citoyennes qui, elles, n'hésitent pas à user de violence et de menaces là, pour garder les citoyens, les migrants à distance. L'OIM est vraiment inquiète si les autorités locales, régionales, nationales ne s'entendent pas dans les prochaines semaines. Ils craignent vraiment que la Bosnie s'enfonce dans une crise humanitaire avec des personnes migrantes qui vont dormir dans la neige, y compris des enfants et des familles. Puis quant à la Slovénie, qui partage aussi 670 kilomètres de frontière avec la Croatie, il y a un nombre record de personnes migrantes qui ont été arrêtées fin septembre à la frontière en une seule soirée. Il y a 113 personnes qui ont été interceptées, la plupart originaires du Pakistan puis du Bangladesh. Faut savoir que la Slovénie et la Croatie appartiennent tous deux à l'Union européenne, mais seulement la Slovénie fait partie de l'espace Schengen de libre circulation, c'est-à-dire sans contrôle aux frontières intérieures et dotée d'une frontière extérieure commune. Donc, au cours des 8 premiers mois de 2020, il y a un total de un peu plus que 10 000 franchissements irréguliers de la frontière Schengen qui ont été enregistrés en Slovénie. Ça représente une augmentation de un peu plus que 3% par rapport à la même période l'année dernière. Et pendant le pic de la dite crise migratoire là en 2015-2016, il y a un demi-million de migrantes clandestins qui avaient traversé la Slovénie en 6 mois dans le but d'atteindre l'Europe occidentale, évidemment, là, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Faut dire que en finissant depuis la réélection du conservateur anti-immigration Janez Janša en début d'année comme premier ministre, le pays a vraiment durci sa politique migratoire en renforçant par exemple les contrôles aux frontières. En avril, le gouvernement a annoncé qu'il allait ajouter 40 km à sa clôture, qui est déjà longue de 200 km le long de la frontière avec la Croatie.
Mmh. Donc, en 2016-2015, il était capable de s'occuper de centaines de milliers de migrants qui passaient par là, mais là, ils sont pas capables de s'occuper de quelques milliers, ils veulent pas s'en occuper finalement.
Ben, en fait, c'est que la clôture de 200 km a commencé à être érigée à peu près à ce moment-là, là, en 2015-2016.
Mais je voulais parler aussi des centres d'hébergement comme tu parlais.
Oui, ben non, mais c'est ça.
Bosnie,
là,
fait que... c'est vraiment de la game politique.
C'est
là.
Ça.
Ouais. Ben, merci Marie-Ève pour avoir parlé d'Europe centrale et des Balkans. C'est vrai que c'est rare.
Oui.
Donc on va y aller avec quelques notes de musique. Et je vous reviens, pas je vous reviens, je, Simon nous revient avec la citation raciste de la semaine.
Yeah.
Toujours sur les ondes de choc.ca, l'émission Les Apatrides Anonymes, en direct des studios, on le rappelle, on est content, c'est notre première depuis 7 mois.
On n'en revient pas.
19h11 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct. Donc, on va poursuivre avec Simon qui nous revient avec une de nos chroniques, ou on peut dire...
La citation raciste.
Les citations racistes qu'on pourrait faire à chaque jour, mais là, ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait.
Ben oui. Et, peut-être juste revenir rapidement sur Marie-Ève quand elle parle de Slovénie, on est vraiment dans les Alpes. Là, je pense. Donc,
En partie.
C'est des gens motivés, très, très désespérés même. Donc, c'est pas des chemins faciles à parcourir. Hein.
La route des Balkans, oui.
Bon, l'honneur de ce grand retour de la citation raciste revient. Roulement de tambour, qui pensez-vous?
Mon oncle.
Mon oncle Simon est écarté des dossiers d'immigration, donc ça fait longtemps qu'il est en tout cas...
C'est mon oncle qui s'en occupe, ouais.
En fait, c'est pas tant une citation raciste que le refus obstiné encore de reconnaître le racisme systémique au Québec. On sent la pression de plus en plus forte un peu partout.
Ouais.
Donc, moi, ce qui m'a marqué, c'était pendant un point de presse suite au décès de Joyce Echaquan, quand il se fait poser la question... cette mort-là, c'est le résultat de racisme systémique. Il repart la cassette habituelle comme quoi c'est pas vrai que tous les Québécois sont racistes. Donc, pour éviter de répondre à la question, il fait encore semblant de mélanger les mots systémique et systématique. Mais je sais, en tout cas, je sais pas si il fait vraiment semblant. Là, mais,
non, il fait exprès, je pense.
Mais je sais pas encore combien de temps il va être capable de jouer ce petit jeu-là, mais ça devient carrément gênant. Donc, ce refus obstiné de reconnaître, encore une fois, le racisme systémique a énormément choqué. Et je vous invite à aller voir les réactions filmées, entre autres, d'Élie Sapie et de Natacha Canapé-Fontaine. Disons qu'elles y vont pas avec des pincettes avec le premier ministre. La mort de Joyce Echaquan arrive exactement un an après le dépôt du rapport de la commission Vien, qui portait justement sur les relations entre les Autochtones et les services publics. Le rapport contenait 142 recommandations, seulement 4 ont été mises en œuvre un an plus tard.
Ouais.
À ce rythme-là, ça prendrait, je calcule, 50 ans avant que l'ensemble du rapport soit mis en œuvre.
50 ans.
Sur le terrain, la plupart des observateurs indiquent que rien n'a vraiment changé et que même à certains égards, ce serait encore pire qu'au moment du dépôt du rapport.
Mm-hmm.
On souligne aussi l'attitude générale de la CAQ qui est problématique. On vise plus particulièrement la ministre responsable des questions autochtones, Sylvie Damour, qui fait preuve des fois d'indifférence, des fois d'arrogance, et les appels à sa démission se multiplient.
Elle est bonne, elle.
Sont toutes bonnes.
Elles sont vraiment bonnes.
Sont, je sais pas qui, je sont
des
bons.
Champions.
Ouais. Donc c'était la citation raciste.
Peut-être aussi, je soulignerais que le PDG du CIUSSS de la Naudière nous a fait une grande révélation après la mort de Mme Échaquan en disant, ben c'est drôle, on n'a jamais eu de plainte pour du racisme à l'hôpital, alors que dans le rapport vient, il y avait des pages et des pages là-dessus. Donc lui était à l'époque, il était aussi PDG. Donc la bureaucratie en folie. Merci Simon. On va y aller avec une pièce très courte du groupe OCs, DOCs, autres dénominations. C'est un vieux groupe actif depuis 97 qui vient de San Francisco. Nouvel album Protein Threat. Je l'ai bien dit, ça va?
Je sais pas.
Protein Threat, la pièce Dreary Nonsense. On écoute ça. Profitez-en, c'est court et ça bûche. Seize la pièce Dreary Nonsense de leur nouvel album Protein Threat. C'est une suggestion choc. C'est un groupe qui était plus rock'n'roll. Ils ont intégré de l'électronique un petit peu psychotronique. Très intéressant comme courte pièce. Merci à Simon de l'avoir suggéré aussi pour l'émission. Donc, je vais vous parler d'une autre manchette qui a plus ou moins passé sous silence à la fin du mois de septembre. On parle de la police de Repentigny, une autre gang de champions qui ont un lourd historique de profilage racial anti-noir.
Excuse-moi, mais on passe de la Slovénie à Repentigny, là, pour vrai?
On a passé de Legault.
Ah oui, okay.
Oui,
on a fait une transition.
Bon, donc Repentigny, c'est sa circonscription.
Le lien, c'est la gang de champions.
C'est sa circonscription en plus à Legault, donc Repentigny. Donc, plusieurs abus dans le passé, plusieurs plaintes qui ont été reconnues par les tribunaux d'abus de la police de Repentigny contre des personnes noires. Une autre histoire banale, malheureusement récente, mais trop fréquente aussi. Pas malheureusement récente, mais malheureusement fréquente, mais qui est récente. Donc, un homme noir de Repentigny a été acquitté de possession d'une arme blanche, donc à la fin du mois de septembre. Je vous conte l'histoire très rapidement. La soirée du 15 septembre 2019, c'est mal terminé pour Ezou Kouabier, qui se rendait au parc avec son fils et un ami de son fils. L'ami de son fils trimbalait un ouvrelette pour réparer sa voiture téléguidée. Et comme il l'échappait souvent, M. Kouabier a décidé de garder l'objet dans sa poche arrière. Et tout d'un coup, il entend en arrière de lui, « Monsieur, laissez tomber votre arme, laissez tomber votre couteau. » Et c'était un policier qui pointait son fusil sur lui, comme dans les films. Il précise lui-même. Il a 43 ans, ce monsieur Courbier. Le policier lui a dit « Marche vers moi » et tout d'un coup, trois policiers pointaient leurs armes vers lui. Il a pensé qu'il allait se faire tirer dessus. Il s'est alors couché au sol. Il s'est retrouvé à la face dans gravelle, un genou dans le dos, menotté, rendu au poste. Finalement, ils l'ont pas mis en état d'arrestation, mais ils lui ont donné une contravention de 150 $ pour possession d'une arme blanche. On parle toujours d'une ouvrelette qu'un enfant avait dans ses mains. Et finalement, il a contesté et il a gagné. Et petite citation de M. Kouabier en terminant. « Le juge s'est étonné que la procureure me poursuive pour ça. J'ai agi en citoyen responsable qui trouve quelque chose au sol et qui le garde en sa possession. » Donc, une autre histoire de profilage. J'imagine que le monsieur va poursuivre éventuellement la police de Repentigny, comme sur les droits de la personne ou ailleurs, pour cet abus-là. Encore une fois, trois policiers qui pointent une arme sur toi quand tu as un ouvre-lettre dans ta poche arrière avec deux enfants.
En présence, ouais, c'est ça. C'est en présence d'enfants, en plus.
C'est passé en septembre 2019, ça fait pas 10 ans. Donc, voilà, c'était une autre manchette joyeuse que je voulais vous partager. On va entendre quelques notes de musique et je vous reviens avec l'agenda. C'est ma petite passe à moi de l'émission. Je parle.
Alors, Mathieu, dis-nous donc, qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine?
Voyons, Marie.
Ben, merci, Marie-Ève, de me présenter comme ça des belles activités. Je vous dirais, demain, 9 octobre, vendredi, je ne dois pas rire maintenant. Donc, je voulais préciser qu'en premier, j'ai pas beaucoup de manifs à vous annoncer parce qu'on dirait avec la dernière semaine, il y en a eu beaucoup pour Joyce Echakane et pour contre le racisme contre les Autochtones. Et là, c'est plus tranquille, en tout cas, pour l'instant. Mais toujours pour au sujet des Autochtones. Demain, donc 9 octobre, 13h, rassemblement culturel, 16h, manifestation. C'est une journée d'action solidarité avec 1492 Lenback Lane et tous les mouvements de défense territoriale autochtone sur l'île de la Tortue. Donc, je vais vous expliquer dans quelques secondes qu'est-ce que c'est. Ça se passe donc au Parc du Loup, qui appelle ça comme ça, au coin Maisonneuve et Saint-Urbain. Il y a une sculpture de loup. Donc, demain, c'est organisé par une coalition de groupes en réponse à l'appel des défenseurs de la terre de Six Nations. Il y a deux semaines, je vous ai parlé d'un journaliste autochtone qui avait été arrêté sur le site d'une occupation d'un projet immobilier près de Caledonia. Ben justement, c'est les gens de Six Nations du territoire Haudenosaunee, le fameux développement immobilier Mackenzie Meadows, qui s'abrasse pas mal depuis août. Il y a eu injonction, occupation, balles de plastique sur une personne, arrestation de 9 personnes en août. Depuis, 20 autres personnes ont été arrêtées par l'OPP qui occupe toujours le terrain. Il y avait eu des barricades aussi. Donc, il y a une journée de solidarité qui est appelée donc demain, le 9 octobre. Et vu qu'il y a plusieurs autres enjeux autochtones actuellement, plusieurs autres luttes autochtones, ben on précise que cette manif-là, c'est aussi pour appuyer plus largement les luttes contre l'évasion coloniale et capitaliste des territoires autochtones. Et justement, ils saisissent l'opportunité, les organisateurs, organisatrices, pour mettre en lumière certains mouvements de défense dont on n'entend pas beaucoup parler. Entre autres, à Akwesasne, il y a le Lenback Language Camp qui revendique le territoire compris dans le claim de Dundee. Ça, c'est dans le coin de à Akwesasne, on connaît. Le territoire de Tekaronto, un autre, ça s'appelle Projet Lenback, a entamé un processus pour reprendre l'intendance d'un parc aussi dans ce coin-là. En territoire Wendat, Atikamekw et Innu, il y a la protection du dernier massif forestier non touché par l'industrie forestière dans le secteur du lac Amoïse au nord de Québec. Il y a les Anishinaabe qui exigent un moratoire sur la chasse sportive aux orignaux dans le parc de la Vérendrye. Et les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse, à Saunierville, qui bloquent un quai, sont en lutte contre les pêcheurs non autochtones. Donc, c'est un peu pour se solidariser avec toutes ces luttes-là qu'il y a une manif demain. Donc,
les pêcheurs de homard, c'est ça?
Ouais.
C'est la pêche homard.
Oui, la pêche homard en Nouvelle-Écosse avec les Mi'kmaq, entre autres. Donc,
qui se sont fait casser du matériel. Puis des bateaux.
Puis saisir, puis oui, etc. Oui, ça brasse pas mal. Puis on en a beaucoup entendu parler il y a deux semaines, mais là, on ne sait pas trop, mais ça continue. Donc ça, c'est demain, 9 octobre, 13h pour le rassemblement, 16h pour la manifestation au coin des rues Saint-Urbain, Maisonneuve. Sinon, ben, je suis une femme d'octobre, présentée du 1er au 31 octobre 2020, un événement qui réunit murales, exposition de photos en mode déambulatoire, création de récits, balado, et activités participatives. Le Théâtre Espace Go, anciennement le Théâtre expérimental des femmes, fondé en 1979, célèbre 50 ans de mobilisation de femmes qui ont eu un impact profond sur les transformations de la société. Autant de luttes qui résonnent toujours haut et fort aujourd'hui et que les manuels d'histoire ne racontent pas. Pensez collectivement, ce projet détourne artistiquement et politiquement les récits officiels de ce qu'on nomme la crise d'octobre pour faire fléchir l'histoire et en éclairer les angles morts. Donc, grande murale de Caroline Monet, qui est sur l'espace Go actuellement, une artiste autochtone qu'on connaît ici à Montréal. Une excellente une exposition de photos d'archives de manifestations sera présentée en mode déambulatoire sur le boulevard Saint-Laurent entre Marianne et McGuayeux. Vous pourrez découvrir 25 photos dans les vitrines de commerce et à travers elles, différents mouvements sociaux qui ont façonné notre monde et qui occupent encore aujourd'hui l'actualité. Donc, c'est un peu 50 ans de les héritières, qu'on pourrait dire, de la contestation québécoise des années 60-70. Donc, ça parle autant des luttes autochtones de 2012, ça parle des luttes pour l'avortement, des luttes queer. Donc, c'est sur le boulevard Saint-Laurent, des photos un peu partout. Donc,
est sûr que ça va être ouvert, donc on peut y aller.
C'est à l'extérieur. C'est exactement.
C'est tout le mois d'octobre.
1er au 31 octobre. Okay. Espacego.com pour info. Je suis une femme d'octobre. Et pour terminé. J'ai une minute. Je vous ai parlé la semaine passée du sondage de nos amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient sur, entre autres, la CPI et aussi sur la capitale Israël comme... Jérusalem comme capitale d'Israël. Ben, la suite du sondage est sortie cette semaine. C'est organisé avec Voix juive indépendante, entre autres. Donc, c'est intéressant quand même de voir ça. C'est un sondage sérieux fait par ECOS. Ils payent pour ça. Puis, on dit que la majorité des Canadiens pensent que la plupart des formes de critiques et de protestations contre Israël ne sont pas antisémites. Hein? C'est beaucoup de discours. 80% des Canadiens affirment que l'accusation contre Israël de commettre des violations des droits de la personne en Palestine n'est pas antisémite. 76% des Canadiens affirment qu'appeler le boycott d'Israël en raison de prétendu abus des droits de la personne n'est pas antisémite et que 69% des Canadiens affirment que la comparaison des politiques d'Israël aux lois sud-africaines sur l'apartheid n'est pas antisémite. Donc, ces résultats sont importants pour les militantes pro-palestiniens, étant donné que le lobby pro-israélien au Canada essaie de promouvoir une nouvelle définition de l'antisémitisme. On en avait parlé avec quelqu'un de Voix juive indépendante le 12 mars, justement, dernier, qui rend la critique d'Israël antisémite automatiquement. Donc, ces résultats de sondage démontrent que les tentatives des gouvernements canadiens depuis quelques années de limiter les critiques à l'égard d'Israël serait fortement en contradiction avec les opinions des Canadiens et que de toujours dénoncer BDS n'est peut-être pas la meilleure idée par rapport à l'opinion que les Canadiens s'en font. Donc intéressant, des petites données comme ça qui passent un peu sous silence, mais qui sont toujours agréables à savoir. Donc voilà pour l'agenda annonce cette semaine. Quelques notes de musique et je finis mon 15 minutes de spectacle avec l'intro de cette émission en compagnie de Simon et Marielle.
Mathieu et son monologue. Mathieu? Clôt pas ton monologue?
Oui, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre première émission en studio depuis plus de 7 mois.
C'était la semaine des 4 Mathieu.
Oui, bon, je me fais rire de moi en direct. Non, en début d'émission, je voulais saluer le peuple biélorussien ou belarusse pour leur résistance depuis quelques semaines contre un régime très autoritaire, particulièrement les femmes biélorussiennes qui se sont arrêtées, tapées dessus, qui continuent à manifester. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant et ça continue à durer, puis c'est une répression qui est très féroce. On a vu des images, on a vu les reportages. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Donc, en conclusion, c'était la première émission des Apatrides depuis un bon bout de temps. Les trois ensemble, où on peut se niaiser, on peut se couper, on peut se déstabiliser.
Non, il n'y a pas que de l'info brute.
Mais j'ai bien aimé cette animation que j'avais pas faite depuis longtemps. Pour les
étudiants, ça va peut-être refermer les
trous. Ouais, non, c'est ça.
Hey!
Appelle pas le malheur!
Pour les intéressés, on est en balado sur la page de choc.ca. On a une page d'émission sur notre site apatridesanonymes.info. Notre page Facebook, on met beaucoup d'informations presque à chaque jour et on vous invite à aller la consulter sur qui s'appelle Apatrides Anonymes. Et peut-être vous dire aussi que apatridesanonymes@resist.ca pour nous contacter par courriel, donner des suggestions de sujets, d'entrevues, des informations, des liens, des activités que vous organisez. Donc, voilà. Pour les infos de base, c'était donc l'émission du 8 octobre. Merci Marie-Ève.
Ben merci Mathieu.
Merci Simon.
Merci Mathieu et Marie-Ève.
Prochaine émission le 22 octobre, 18h30. Sinon, on a plus de 30 émissions que vous pouvez écouter en rediffusion sur notre page ou sur notre site. On va se laisser avec une dernière pièce musicale. Simon m'a tout préparé ça, les infos. Minio Cumbiero, ça c'est le nom du groupe. C'est un duo, Minio Crusaders et Frente Cumbiero, un japonais, un colombien. Hein, c'est citoyen du monde, ça. Donc, c'est de la cumbia en japonais. Ça, c'est encore plus citoyen du monde. Album de 2020, donc sorti récemment. La pièce s'appelle Cumbia del Monte Fuji. Ça veut dire quoi, Simon?
Je pense que ça veut dire la cumbia du Mont-Royal.
Du Mont-Royal, OK, c'est bon. Donc, on va se laisser avec quelques minutes de cette musique-là. Et ensuite, de la musique toute la soirée à Choc. Il n'y a pas d'autres émissions. Donc, ce soir, les émissions de création. Donc, voilà. Marie-Ève, dernier mot.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
À bientôt.